au plaisir d'insolence.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'émission qui prend le temps de parler littérature.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour. Aujourd'hui, notre invité est Claude Aziza, qui est maître de conférences honoraires de langue et littérature latine à l'université La Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ouf ! Qui est aussi écrivain, qui est historien, qui est éditeur, qui est critique cinématographique, organisateur de festivals, j'en passe, et des meilleurs. C'est vous dire que c'est à la fois un érudit, bien entendu, un joyeux luron, quelqu'un qui déconcerte et qui est assez insolent de temps en temps, donc cela nous convient très bien pour cette émission. Bonjour Claude Aziza.
Bonjour Elisabeth.
Alors, Claude Aziza publie, entre autres choses, en septembre 2008, une suite qui s'appelle Urbi et Orbi, suite écrite par Albin de Sigala, nous dirons tout à l'heure qui c'est, aux belles lettres, et qui est une suite de Quo Vadis, qui est un chef-d'œuvre bien connu. Alors quand même, Claude, nous allons d'abord parler de ce que vous faites. Racontez-nous, parce que c'est un peu compliqué.
Non, ce n'est pas très compliqué. Je suis comme tous les universitaires retraités. Enfin, je peux travailler tranquillement. Donc, je
disons
travaille.
Tout de suite qu'ils ne sont pas le rancy, parce que, évidemment, universitaire retraité, ça fait tout de suite oulala. Pas du tout.
Je travaille. Oui. Donc, j'écris enfin les livres que je n'ai pas eu le temps d'écrire, pris par des fonctions universitaires, écrasantes souvent. Voilà, donc j'ai fait un Néron en Gallimard Découverte, une espèce de réhabilitation de Néron. Je viens de finir, pour les belles lettres, un guide de l'antiquité imaginaire, c'est-à-dire tous les romans, toutes les BD et tous les films sur l'antiquité, avec des conseils très pratiques, comment s'en servir. J'attaque une traduction latine de Murena, je suis plongé dans une encyclopédie sur Pompéi.
Vous avez publié des textes sur le judaïsme, je crois, grecs et latins.
Oui, alors ça, c'est plutôt ma spécialité scientifique. J'ai repris aux belles lettres un vieux recueil de Reinach de la fin du 19e siècle sur
Théodore Reinach, je suppose, oui.
Tous les textes grecs et latins sur les juifs et le judaïsme. J'en ai trouvé beaucoup d'autres, je les ai retraduits. Enfin, j'ai mis tout ça au goût du jour. Ça, c'est le côté, si vous voulez, à la fois masochiste et scientifique, quoi. Il y a des choses plus agréables, plus amusantes en tout cas. Bon, c'est les deux aspects. Quoi.
Oui, mais enfin, si on n'est pas un érudit, on ne peut pas faire passer non plus les choses amusantes. Donc, voilà. Les deux sont importants. Dans les bandes dessinées, vous aviez été le grand traducteur du fils d'Alix,
Du fils de Spartacus, co-traducteur.
Dans la série Alix.
Dans la série Alix, oui, j'ai traduit en latin le fils de Spartacus. C'est peut-être ça qui m'a donné envie de m'intéresser aux fils, aux problèmes des fils, au cinéma, en littérature, à la bande dessinée.
Et des suites.
Je précise tout de suite qu'à cette époque, je n'en avais pas encore de fils.
Ah bon, de fils réels.
De fils réels, ah avec bon. Des filles. Alors.
Bon, très bien. Donc, vous vous prenez pour Spartacus, si je comprends bien.
Je ne sais pas. Vu bon. Ce que signifie le mot Spartacus actuellement, on peut s'interroger. Là-dessus.
C'est vrai. Alors, vous êtes aussi l'éditeur post-mortem d'Alexandre Dumas, fallait oser.
Donc, vous avez
édité
une bonne douzaine de romans de Dumas. D'ailleurs, j'édite, ça va sortir en décembre 2008, La Dame de Montsoreau et les 45 pour la série sur France 2, télévisée.
Mais les Mémoires d'Horace existaient déjà ?
Alors, les Mémoires d'Horace, oui. Non, ça c'est un inédit de Dumas que j'ai découvert. Oui. Oublié dans un coin de la Bibliothèque nationale, qui n'était sorti qu'en feuilleton et qui raconte les guerres civiles par le poète latin Horace.
Alors vous fouinez beaucoup, parce que comment est-ce qu'on découvre, on va parler justement de Urbi et Orbi, comment vous découvrez des gens incroyables, des suites invraisemblables, car vous en avez déjà publié une, je crois, celle de Dumas.
J'ai publié la suite de Monte Cristo, qui s'appelle Le Fils de Monte Cristo. De Dumas.
Oui,
ça c'était facile à trouver. Le Fils de Monte Cristo, ça avait été publié par la Bibliothèque Nelson dans les années 30.
Celui-là, c'est donc qui c'est ce monsieur Albin de Sigala?
Alors ce monsieur, c'est un ecclésiastique très austère qui n'a pas traduit Quo Vadis. C'est une confusion peut-être dont je suis en partie responsable, je ne sais pas.
Oui, parce qu'on avait dit qu'il était traducteur.
Non.
Oui.
Il a traduit et introduit en France un petit texte de Sienkiewicz qui s'appelle « Suivons-le » et qui est une espèce de brouillon de Covadis. C'est lui qui a traduit cela, donc il connaissait très bien Sienkiewicz. C'est un théologien tout à fait respectable. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il a écrit en 1904 la suite de Covadis, c'est avec l'accord de Sienkiewicz.
Disons en deux mots quand même qui est Sienkiewicz, oui. Parce qu'il y en a qui ne savent plus très bien, qui est esprit Nobel, qui a eu le prix Nobel quand même en 1905.
Alors Sienkiewicz, Henryk Sienkiewicz, c'est un grand romancier polonais, qui reste surtout maintenant par Covadis, mais qui a écrit une bonne quinzaine de romans historiques.
Oh, quand même, il reste par sa trilogie, par le fer et par le feu,
oui.
Le déluge, etc.
Dans l'esprit, oui. Si vous voulez, à notre époque, où finalement on ne connaît les livres que par les adaptations cinématographiques qui en ont été données, hélas, ou tant mieux, je n'en sais rien, on connaît Covadis. Et Covadis, qui a eu un succès absolument phénoménal, vraiment extraordinaire, qui a été traduit dans toutes les langues, a rencontré beaucoup de critiques en France. Il a été assez moqué, vilipendé. On a traité Sienkiewicz d'imitateur de Dumas, notamment. C'est quand même assez bizarre, assez étonnant. Mais enfin, bref, peu importe. C'est vrai que Dumas avait écrit en 1939 un roman qui s'appelle Actée et qui se passe sous le règne de Néron.
1839, je
1839,
suppose,
parce que, bien
oui.
sûr.
Oui.
Et Sienkiewicz, donc, a eu beaucoup, beaucoup de détracteurs en France qui n'ont pas compris, d'ailleurs, quel est le sens de Covadis. Parce que Covadis, pour le résumer en deux mots, c'est l'histoire de la cour de Néron, c'est l'histoire de l'incendie de Rome, c'est l'histoire des persécutions des chrétiens avec un couple, comme d'habitude, n'est-ce pas, un Romain pur et dur qui s'appelle Marcus Vinicius et puis une jeune crypto-chrétienne qui s'appelle Lygie. Alors on devine évidemment la suite. La jeune fille sera aux arènes, mais elle sera sauvée parce qu'elle est gardée par un bon géant qui s'appelle Ursus, qui est intéressant parce qu'il va donner au cinéma une dizaine d'années plus tard le personnage de Massiste. Donc tout cela n'a pas été très bien compris parce que Sienkiewicz, derrière Covadis, écrit en fait un livre politique. C'est-à-dire que...
Comme tous ses livres, d'ailleurs.
Comme tous ses livres. Il s'agit des Polonais qui sont martyrisés par les Russes, lesquels Russes veulent absolument convertir à l'orthodoxie des Polonais qui sont catholiques uniates. C'est-à-dire... Et derrière les chrétiens persécutés par Néron, il faut voir les Polonais persécutés par le tsar. D'autant plus que, et ça explique la jeunesse de Covadis, Sienkiewicz, qui était à Londres, qui a visité beaucoup, toute l'Europe, mais qui était à Rome, avait l'habitude de rejoindre des exilés polonais qui se réunissaient dans une petite chapelle, qui est la chapelle que l'on retrouve dans le roman, c'est-à-dire l'endroit où Pierre, se sauvant de Rome en flammes, aurait rencontré Jésus, qui lui aurait dit « Covadis ».
Où vas-tu ?
Où vas-tu ? Où Pierre aurait demandé à Jésus « Covadis », dominé bien sûr, « Où vas-tu ?» qui est un très mauvais latin d'ailleurs, mais enfin, Pierre, pêcheur de Galilée, ne pouvait pas manier un excellent latin. Alors, on imagine que le Christ...
Comment devrait-on dire ?
Coïs.
Ah.
C'est le verbe aller, c'est eo, c'est pas vado, c'est un verbe bas latin. Et donc, Jésus...
Mais coïs, c'est
voilà,
pas joli.
Voilà, coïs, c'est pas très joli. Et Jésus va lui répondre, j'imagine, je vais à Rome, et au Romam, parce qu'il maîtrise fort bien les questions de lieu qui sont très compliquées en latin, quoi. Voilà. Donc, ce Covadis, qui donne son titre au roman, a un énorme succès. Et en 1904, l'abbé Albin de Sigala décide d'écrire la suite, qui s'appelle, en latin forcément, Urbi et Orbi, qui est la première bénédiction papale.
Oui.
Alors, cette suite, c'est une suite que personne ne connaissait, que j'avais vu mentionner dans des études sur Covadis, et je me disais, il faut absolument que je trouve cette suite, quoi.
Alors,
qui était au fond de la nationale. Hein. Ce n'est pas un problème, d'ailleurs. Il n'a aucun mérite, si vous voulez.
Oh bah, c'est-à-dire
il suffit d'aller la chercher, on l'a fait photocopier, puis c'est fini. Quoi.
N'enlevez pas le merveilleux de tout cela.
Non, mais, puis je l'ai depuis très longtemps. Je ne trouvais aucun éditeur qui voulait la prendre, cette suite.
Pourtant, moi, je trouve ce livre aussi littérairement intéressant. Bon, il y a des passages, alors, parce qu'il est mélangé comme passage. Il y a des passages qui sont des baisers de feu. Enfin, c'est Naples au baiser de feu à un moment donné. Mais il y a d'autres passages, comme la prise de Jérusalem, qui sont bien écrits, qui sont intéressants. Par exemple, quand vous parlez d'Urbi et Orbi, il y a un passage où il reprend l'histoire d'Urbi et Orbi, et c'est le passage où, si je puis le lire, voyez un paragraphe, les Romains à leur tour espéraient en renversant ce sanctuaire, il s'agit du temple évidemment, apporter à Rome la souveraineté universelle, non seulement dans le domaine temporel, mais dans le monde bien autrement élevé des âmes. Là, on voit le style déjà. L'Urbs et l'Orbs ne ferait plus alors qu'une seule chose, et cette chose unique, ce serait Rome. Donc quand même, c'est très bien écrit, c'est un peu emphatique, bien entendu, mais l'Urbs et l'Orbs, il faut se rappeler que c'est la ville et le monde.
Oui.
Les gens ne savent pas forcément. Et ça, c'est une des choses aussi, là, vous êtes quand même culotté, insolent, parce que vous nous parlez latin, enfin, à travers lui, vous nous restituez un livre qui parle énormément latin.
C'est vrai. Et
C'était une vogue à une époque, je crois.
Oui, pendant tout le 19e et au début du 20e siècle, bien sûr. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que finalement, Sigala reprend le même schéma que Covadis. Le livre fait deux fois moins de pages. Hein. Alors simplement, Néron est mort, Épopée est morte. Alors il faut. Et puis, en principe, Marcus Vinicius et Ligie sont mariés. En principe, en fait. Ils ne sont pas mariés, vous savez, ça, c'est comme ces livres où au dernier moment, bon, on
croit,
voilà. Ils ne sont pas mariés, donc il faut quand même qu'on les marie, forcément, parce que c'est Jean qui aurait dû les marier, mais enfin, il n'a pas pu les marier.
Et puis c'est un abbé qui écrit quand même.
Oui, c'est un abbé qui écrit, donc absolument, et puis on est en 1904, et donc on remplace Néron par Titus, sauf que Titus est gentil alors que Néron était méchant. On remplace Poppée, ça m'intéresse, par Bérénice. Alors Bérénice, voyant Titus regarder quand même Ligie avec un air assez intéressé, donc c'est Bérénice qui est jalouse de Ligie. Alors là, ça devient totalement invraisemblable puisqu'elle l'envoie comme vestale aller soutenir le moral des troupes romaines qui sont au siège de Jérusalem. Or, il se trouve que Titus a comme ami notre ami Marcus Vinicius, qui est en quelque sorte son chef d'état-major. Dans la réalité, c'est Pline l'Ancien qui a été son chef d'état-major, mais ce n'est pas grave. Et cette pauvre Ligie va se trouver enfermée dans le temple, lequel brûle. Bon, ça se termine bien. Triomphe de Titus à Rome. Et au moment où il faut rendre grâce aux dieux, faire un sacrifice, c'est très peu de choses, un sacrifice. Hein, on fait brûler un peu d'encens. Ligie commence à crier qu'elle est chrétienne. Mais comme elle est vestale, on ne peut pas l'enfermer dans l'arène. On lui applique le châtiment des vestales, c'est-à-dire qu'on la mure dans une prison, on la condamne à mourir de faim. Alors Vinicius ne peut pas supporter ça, il déclare, bah, puisqu'elle dit cela, moi aussi je suis chrétien. Alors lui, on le met dans l'arène, bien que ce soit un copain de Titus. Alors il y a trois lions qui arrivent, il en tue un, il en tue deux, puis le troisième, il fait un signe de la croix, donc le lion s'arrête. Il va récupérer, évidemment, Ligie, qui n'est pas morte, mais elle est limite, elle a quand même perdu quelques kilos. Et tous les deux se marient et disent « on va passer notre voyage de noces et maintenant on ne supporte plus Rome et ses tracas et on va aller dans une petite ville tranquille, on est en 72, quelque chose comme ça, ils vont à Pompéi ». Et là, c'est quand même très intéressant. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'il y a une hypothèse qui est peu connue sur la mort de Bérénice, puisqu'on ne sait pas, elle a disparu Bérénice, en 73, 74 à peu près, on ne sait plus, elle disparaît de l'histoire. Alors une hypothèse, c'est qu'elle serait morte à Pompéi. Une hypothèse tout simplement parce que sa sœur avait épousé Félix, qui était procurateur romain en Judée, et tous les deux prennent leur retraite. Ils sont à Naples, et leur fils, qui est donc le neveu de Bérénice, se marie avec une pompéienne et s'installe à Pompéi. Ça, nous le savons. Si Bérénice est allée vraiment à Pompéi, elle a rencontré encore une fois Marcus Vinicius et Ligie. Bon. Ce sont ces croisements de l'histoire et de la fiction qui m'amusent beaucoup.
Un de ces jours, on va écrire la suite qui sera la mort de Bérénice à Pompéi.
Ou peut-être la mort de Vinicius et de Ligie. On ne sait jamais. Après tout, on peut imaginer que Ligie va mourir et Vinicius va se consoler dans les bras de Bérénice.
Bon, nos auditeurs ont déjà compris que Claude Aziza est un chroniqueur de Voici, voilà, de l'Antiquité. Nous allons faire une pause et nous reprenons tout à l'heure.
Révisez vos connaissances sur Canal Académie avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Académie.
Ici Elisabeth Antebi dans l'émission Au plaisir d'insolence qui continue avec Claude Aziza sur le thème du romanesque et des suites en littérature. Alors, Claude Aziza, nous avons parlé en particulier de Urbi et Orbi, nous allons faire allusion à d'autres suites, et des romans historiques, puisque ce que vous faites pose bien des questions, et c'est toute une tranche de littérature, si on peut dire. Ce qui est intéressant, c'est que pour finir sur Urbi et Orbi, ça a été publié, je crois, en 1904, et alors, c'est très près, comme vous le soulignez vous-même, c'est très près de la sortie du livre dont il est la suite de Sienkiewicz, de Quo Vadis, puisque Sienkiewicz a, en 1905, son prix Nobel de littérature là-dessus.
Oui, oui, d'autant plus que le livre paraît en 95 en Pologne. Il est traduit tout de suite en 96 dans toutes les langues, pratiquement, d'abord en anglais, mais il faut attendre 1900 pour qu'il soit traduit en français. Il est d'ailleurs traduit amputé d'un tiers, quasiment, tout de suite après, dans des éditions expurgées, parce qu'il y avait des passages un petit peu lestes. Donc, les Français, en 1904, viennent de lire et de discuter sur Quo Vadis. 4 ans après, c'est-à-dire le succès ne s'est pas encore démenti. Alors, pourquoi une suite ? J'ai une hypothèse. Elle est fragile, mais bon, alors, elle vaut ce qu'elle vaut. On est à la veille de 1905. C'est-à-dire qu'on est à la veille du traité...
De la loi de séparation.
La loi de séparation
des églises et de l'État.
Oui. Et d'un autre côté, il y a eu toute une atmosphère entretenue par l'affaire Dreyfus autour des religions, avec une droite religieuse, avec une gauche menée par tous les gens de gauche à l'époque et par Zola, qui se voulait...
avec Anatole France aussi, qui était parti communiste,
athée, etc. Bon. Oui. Et donc, il y a une espèce de discrédit jeté sur l'Église. Et au fond... Je me dis qu'en 1904, on n'est pas si loin du début du 19e, des années 1800, où Chateaubriand écrit Les Martyrs, justement, pour essayer de relancer, par l'intermédiaire du merveilleux chrétien d'ailleurs, une espèce d'apologétique qui a été mise à mal par la Révolution française. Alors là, on n'est pas dans le même contexte politique, mais on n'en est pas si loin, finalement.
Donc la littérature n'est pas non plus très loin du champ politique, en l'occurrence.
Oh, jamais.
Jamais. Mais alors, en 1904, pour compléter ce que vous dites, il y a aussi Jaurès qui fonde l'Humanité.
Oui.
Et on parlait tout à l'heure de cette écriture. Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est l'écriture cinématographique. Vous qui adorez le cinéma, vous dites que Quo Vadis est connu évidemment plus que d'autres chefs-d'œuvre de Sienkiewicz parce que ça a été porté au cinéma. Mais déjà, l'écriture de ce livre d'Urbi et Orbi, c'est cinématographique et c'est l'époque, au fond, où naît le cinéma et où sort Méliès.
Oui, d'autant plus qu'en 1901, 3 ans avant, il y a le premier film qui est une espèce de très lointaine adaptation de Quo Vadis, un film de Lucien Nonguet qui s'appelle « Martyr chrétien ». Donc, on voit très bien, finalement, que dès les origines du cinéma, dès 95, si vous voulez, le premier film sur l'Antiquité date de 96. C'est un film qui dure 59 secondes, c'est Néron essayant des poisons sur un esclave. Bon.
Votre Néron, il est beau, votre Néron.
Ah, c'est le premier. Tout y est, si vous voulez. En 59 secondes, les 1000 films qui vont suivre n'ont aucune raison d'être. Il suffirait de voir cela.
Pour être insolente, est-ce que votre passion pour Néron se veut parce qu'il était un empoisonneur ?
Oh, écoutez, on ne va pas faire de psychanalyse du café du commerce, vous voulez dire parce qu'il a empoisonné sa maman.
Bien sûr.
Je ne répondrai pas à cette question. Non, ma passion
je n'ai
pas de passion pour Néron. Oui. Simplement, je déteste les clichés tout faits. Et je pense que Néron n'a pas été pire que les autres. Au contraire, il a été un meilleur empereur. Et j'ai essayé de faire la même chose, mais à une petite échelle, sur cette malheureuse Messaline. Qui ne méritait pas l'opprobre qu'on a jeté sur elle. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a, sur l'Antiquité romaine, ce qui est quand même mon métier, si vous voulez, des clichés qui ont la vie dure. Je vais vous en donner un autre qui est très facile. Tout le monde imagine que lorsque l'on finit un repas à Rome, on s'essuie sur les cheveux frisés d'un petit esclave qui est à ses pieds. Il y a une seule référence à cela, c'est dans le Satyricon de Pétrone. Autre chose, tout le monde dit que quand il y a un combat de gladiateurs, les gladiateurs arrivent en disant « avec Caïssar, ceux qui vont mourir te saluent ». Ça a été dit une fois dans toute la gladiature, sur 6 siècles. Tout le monde pense que lorsqu'on pousse à l'arène, lorsque les spectateurs mettent le pouce en bas, ça veut dire qu'il faut tuer. Pas du tout. On ne met jamais le pouce en bas. On a mal interprété des mosaïques, si vous voulez. C'est pas du tout ça. Donc, vous voyez qu'on vit sur des clichés.
Bah quand même, premier cliché, donc, c'est le premier film dont vous me parlez, puisque c'est Néron l'empoisonneur, en quelque sorte.
Oui, bien sûr, mais on vit sur des clichés. Oui. Alors, ces clichés, c'est les pères de l'Église qui en sont en grande partie responsables, mais pas uniquement les pères de l'Église.
Suétone aussi, non ?
Suétone, c'est une petite concierge. Donc, effectivement, Suétone aussi, bien sûr. Tacite un peu moins, mais je crois que Tacite est un romancier de talent et un historien relativement médiocre. Mais enfin bon.
Mais c'est la littérature donc qui crée l'histoire, ça n'est pas le contraire.
Eh bien peut-être que oui, peut-être que oui. D'ailleurs, ça peut être aussi le cinéma qui crée l'histoire.
Maintenant, oui. Voilà. Il y a une écriture, d'ailleurs on parle bien d'écriture cinématographique.
Il y a une écriture cinématographique, oui bien sûr. C'est-à-dire qu'au fond, la fiction littéraire et cinématographique est beaucoup plus étroitement lié à l'histoire qu'on a bien voulu le dire depuis un siècle. Quoi.
À propos de cinéma et de littérature, vous dites à un moment donné qu'au cinéma, on a plusieurs remakes. On appelle ça des remakes quand on fait un chef-d'œuvre, on en refait un, qui peut être d'ailleurs meilleur que le premier, etc. Ça s'appelle un remake. En littérature, ça s'appelle une contrefaçon ou un plagiat. Pourquoi ? Et est-ce que donc les suites qui se rapprochent de cela, est-ce que les suites ont une valeur littéraire, à votre avis ?
C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce qu'en ce qui concerne les remakes, on appelle ça remake parce que c'est une habitude du cinéma américain, donc on a employé le terme américain. Bon. On pourrait dire une réécriture, d'une certaine façon. Contrefaçon et plagiat en littérature, ce n'est pas tout à fait la même chose que suite, si vous voulez. Plagiat, c'est effectivement une imitation d'une œuvre dont on a pris clandestinement une grande partie, ou bien des morceaux entiers. Quoi.
Est-ce que Mathias Sandorf, pour vous, de Jules Verne, est un remake
Mathias Sandorf est un remake
Monte Cristo,
un hommage, un remake explicite, si vous voulez. C'est un hommage à Dumas, père. Il est d'ailleurs adressé à Dumas fils, et c'est une réécriture de Monte Cristo à la façon de Jules Verne, dans des circonstances tout à fait différentes. Il est bien évident qu'on ne peut pas réécrire Monte Cristo. Le fils de Monte Cristo, qui a été écrit par un auteur de la fin du 19e qui s'appelle Jules Lermina, derrière le mot fils est en fait une réécriture de Monte Cristo. En fait, je crois que le désir des romanciers, mais peut-être aussi des réalisateurs, c'est quand un roman nous a passionnés. Regardez Monte Cristo, par exemple. À la fin de Monte Cristo, Edmond Dantès s'en va avec Haïdée. On ne sait pas ce qui s'est passé, d'ailleurs. Il y a un sentiment trouble. Chez Dumas, il y a un blanc.
La fille du pacha de Janina.
Voilà. C'est le blanc slendalien chez Dumas, si vous voulez. Bon. Dans le grotesque téléfilm qu'il y a quelques années, José Dayan a réalisé avec Depardieu, on voit Gérard Depardieu retrouver sur la plage des Catalans à Marseille la vieille Mercedes, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'elle a vieilli aussi. Et tous les deux se roulent dans les vagues à la façon d'amoureux, ce qui est très gênant parce qu'il y a peu de vagues et Depardieu à 30 kilos de trop. C'est une absurdité, c'est une trahison du roman. Ça, c'est une trahison, si vous voulez. En revanche, se demander qu'est-ce qui s'est passé entre Dantès et Haïdée. Où vont-ils ? Que font-ils ? Ils font l'amour et ils ont un fils, tout simplement. C'est ça le fils de Monte Cristo. C'est-à-dire qu'on essaye de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, au fond. Qu'est-ce que D'Artagnan est devenu entre la fin des Trois Mousquetaires et 20 ans après, pendant 20 ans. Roger Nimier a écrit un D'Artagnan amoureux qui est D'Artagnan à 30 ans. Au fond, il ne s'agit pas de faire des suites, il s'agit de combler des attentes, si vous voulez. C'est-à-dire,
et voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on joue avec le temps. Vous dites quelque part que, contrairement, et ça plaira à nos immortels, nous sommes dans la maison des immortels, contrairement aux héros de bande dessinée auxquels je n'oserais comparer les académiciens, les héros de bande dessinée sont immortels, ils ne changent pas. Ils ne vieillissent pas.
Ils vieillissent imperceptiblement.
Voilà, Goldorak, c'est Goldorak pour l'éternité des temps, etc. À part Tarzan, peut-être, dites-vous, mais enfin, bon,
il vieillit rarement. Oui, mais c'est un héros littéraire.
Voilà. Oui, c'est vrai. et ils vieillissent rarement. Alors, que dites-vous? Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Vous dites que dès qu'on touche à des héros littéraires, c'est pour qu'ils vieillissent ou rajeunissent d'ailleurs, mais que... parce qu'on pourrait faire l'enfant, sauf si de D'Artagnan. Personne n'a reculé dans le temps.
on l'a fait pour Lagardère. Alors ça, c'est un exemple intéressant, parce que Lagardère, c'est le bossu, hein, bien sûr, et Paul Féval. Et Paul Féval fils, qui est un romancier de talent, hein, s'est mis en tête d'écrire les suites de Dumas, les suites de Cyrano de Bergerac et les suites de Lagardère. Alors ça donne, en ce qui concerne Dumas et Cyrano de Bergerac, 7 volumes que j'ai édités d'ailleurs chez Omnibus, D'Artagnan contre Cyrano et D'Artagnan et Cyrano réconciliés. Fallait le faire finalement dans la pièce d'Edmond Rostand. On voit bien que D'Artagnan passe et vient féliciter Cyrano lors du duel, bien sûr, de l'hôtel de Bourgogne. Tandis que, en ce qui concerne Lagardère, le roman de Paul Féval s'achève heureusement. Le fils change le dénouement et rajoute encore 2 volumes pour rajouter du piment. Et une fois qu'il a fait ça, il écrit la jeunesse de Lagardère, que son papa n'avait jamais écrite, quoi. Au fond, c'est ce qu'a fait Fenimore Cooper, mais il était tout seul, lorsqu'il commence à raconter le dernier des Mohicans. Et devant le succès de Dernier des Mohicans, il écrit Le Tueur de Daims, qui est quand même le début de l'histoire de la saga de Batcuir.
Et est-ce que c'est aussi fréquent que les fils d'eux ou les filles d'eux? C'est assez... On remonte rarement dans le temps, quand
non,
même.
Non, on remonte, non. Les plus fréquents, c'est les fils d'eux. La fille d'eux, je n'ai trouvé qu'une fille de Cyrano, moi. Dans toute la littérature, il y a peu de filles d'eux. Si, il y a quand même toujours le fameux Paul Féval, écrit donc Lagardère. Ensuite, le fils de Lagardère. Ensuite, ses petits-enfants qui s'appellent les jumeaux de Nevers. Ensuite, son arrière-petite-fille... qui va s'appeler Mademoiselle Bonaparte. Donc, lui, il va jusqu'au bout, si vous voulez. Il commence sous la Régence et il s'arrête à l'Empire.
C'est intéressant parce que Frédéric Dard a laissé un fils, qui vit tout à fait, et qui écrit aussi des suites ou à la manière de... Alors, c'est intéressant parce que notre enfance a été bercée, la vôtre aussi, je suppose, puisque nous sommes à peu près de la même génération, par les « à la manière de ». Les « à la manière de » de Rebout et Muller, vous vous rappelez?
Oui, bon. Bien sûr.
Alors... quelle est la différence finalement aussi? Est-ce qu'il y a des suites qui sont aussi idées à la manière de? Parce qu'évidemment, il y a la suite-suite qui est un monsieur qui prend la suite dans l'histoire. Et puis, est-ce qu'il y a des suites de style?
Alors ça, c'est très compliqué parce que à la manière de, qui est un de mes livres de chevet, bien sûr, avec la négresse blonde de Georges Forest, qui est assis...
au bord du Loujigi, quand baume les arômes des tombeaux, le roi Makoko est assis.
Phèdre dans son fauteuil, assise tremblante et blême. Bon.
Oui, oui. Mais nous sommes une émission, nous avons le temps de parler littérature.
Pierre Dac a écrit une suite de Phèdre, d'ailleurs, qui s'appelle La Phèdre à repasser. Je vous dis, idéal, qui est assez extraordinaire.
Qui a été joué il y a un an à Neuilly. Oui, oui, absolument.
Bon. Moi-même,
oui.
Je l'ai fait jouer à la fac par mes étudiants et j'y ai moi-même tenu un rôle dedans.
Bon, peu importe. Oui.
Mais quand vous avez Rebout et Miller, c'est-à-dire que finalement... c'est un pastiche.
Oui, il faut expliquer ce que c'est. Voilà. C'est donc
c'est
des livres qui ont eu un succès extraordinaire, qui étaient autour des années 50, je crois.
Ah non, avant. Avant, 40.
Et qui imitaient, mais le dernier, c'est sur Sartre, donc ça doit être assez tard aussi. Mais il fallait une culture, d'abord absolument insensée, parce qu'il fallait avoir lu tous ces braves
c'est
gens
ça,
pour
problème.
Comprendre l'allusion.
Le problème du pastiche, c'est que vous ne riez pas à un pastiche si vous ne connaissez pas l'écrivain qui est pastiché.
Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait pasticher? À votre avis?
À mon avis, non. Parce qu'il y a des choses, il faut distinguer par exemple le pastiche et l'anachronisme. On peut parfaitement jouer sur l'anachronisme, d'ailleurs le cinéma le fait beaucoup mieux que la littérature. Bon. Mais quand vous jouez sur l'anachronisme, pour comprendre qu'il y a un anachronisme, il faut connaître l'époque, bien entendu. Si vous avez à la fin du 19e quelqu'un qui téléphone, malgré les apparences, ce n'est pas un anachronisme. Proust a écrit sur le téléphone, donc ce n'est pas un anachronisme. Bon. En revanche, si quelqu'un téléphone sur un portable à la fin du 19e siècle, c'est un anachronisme. C'est tout, hein, c'est pas plus compliqué. Le pastiche, à mon avis, est un art extrêmement difficile. Et à quoi ça sert de pasticher des classiques si on ne lit pas, on ne les connaît pas? Par exemple, il y a un pastiche chez Rebout et Muller qui est extraordinaire, qui est un pastiche de Dostoïevski, dont je me souviens, le nom du héros s'appelle Ivan Labibine Osouzov. Ivan Labibine Osouzov. Alors, Ivan, il faut comprendre c'est Ivan. Labibine, il faut savoir ce que c'est que Labibine. Et les Souzov, on n'en entend plus parler maintenant. Alors,
oui.
Ivan Labibine Osouzov, déjà ça pose un problème.
Mm-hmm.
Hein on se dit, tiens, ça fait russe, quoi. Ah, oui, oh, ça fait russe, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et donc, à mon avis, le pastiche...
D'ailleurs, Dostoïevski disait, Dostoïevski dont vous parlez, disait « l'inspiration, c'est la mémoire ».
Et oui.
Donc, ça vaut pour vos suites aussi, oui, d'ailleurs.
Bien sûr.
Hein, mais
bien sûr.
C'est assez intéressant. Oui. Oui.
Mais donc, à mon avis, le pastiche, oh, y a des pasticheurs de génie actuellement. Mais c'était, au fond, le pastiche, c'est comme les imitateurs. Quand vous aviez Thierry Leluron, par exemple, vous regardez maintenant une émission de Thierry Leluron et vous l'entendez pasticher Raymond Barre. Alors, vous le voyez, mais vous ne voyez pas Barre. Et puis, vous voyez dire, avec la voix de Raymond Barre, bon, des expressions qui étaient, dans les années 70, vous voyez ?
Familières, oui.
Familières. Mmh. Maintenant, on ne comprend plus.
Bien sûr.
On ne comprend plus, on ne sait plus ce qui s'est passé. Donc le pastiche est très daté, je crois.
Très bien, alors nous allons encore nous interrompre et reprendre en dernière partie avec Claude Aziza pour l'émission où l'on prend le temps de parler littérature au plaisir d'insolence.
Canal Académie.
Dernière partie avec Claude Aziza, Elisabeth Antebi qui vous présente toujours l'émission où l'on prend le temps de parler littérature, c'est-à-dire au plaisir d'insolence, et c'est une grande insolence d'avoir le temps. Claude Aziza, donc, nous en étions à parler des... Est-ce que les suites, finalement, en littérature, font partie de la littérature ?
Oui, ça, indéniablement, oui. Mais est-ce que c'est de la grande littérature ? Le problème qui se pose, c'est un problème très compliqué. Alors, d'abord, pour qu'il y ait une suite, il faut que l'œuvre qu'on suit soit une œuvre célèbre. Donc, déjà, ça pose un problème. Il y a une suite des Trois Mousquetaires, il y a une suite de Ben Hur, d'ailleurs, qui a été rédigée dans les années, en 1950. Bon, Le Fils de Ben Hur. Il y a des suites, mais les œuvres originales sont tellement écrasantes. Les réécritures, c'est différent. Quand Jules Verne réécrit avec Mathias Sandorf l'exemple que vous avez donné, Monte Cristo, c'est le talent de Jules Verne face au talent de Dumas. Et c'est talent et talent.
Oui, on peut dire, aux États-Unis, il m'est venu Margaret Walker qui a réécrit, au fond,
c'est une réécriture.
Autant en emporte le vent.
C'est une
oui.
réécriture. Les suites des Misérables, les suites d'Autant en emporte le vent, que je sache, ne sont pas des chefs-d'œuvre. Non. Donc, écrire la suite d'un chef-d'œuvre, c'est très difficile. On peut écrire la suite d'un chef-d'œuvre si c'est le même écrivain. Alors à ce moment-là, on admet, on le disait tout à l'heure, que 20 ans après, que je trouve supérieur aux Trois Mousquetaires d'ailleurs, que 20 ans après, la suite des Trois Mousquetaires. Ça, bien sûr.
Mais même d'ailleurs, Eugène Sue, Dumas, à certains moments, etc., est-ce que le romanesque est finalement littéraire ? Parce que tout le monde se bat là-dessus, disant qu'il n'y a pas de style, que c'est du roman feuilleton. D'ailleurs, Quo Vadis a été publié en feuilleton.
Oui.
Et vous-même, vous vous payez quand même le culot de parler, à propos des romans sur l'Antiquité, d'un quatuor sulpicien, avec Ben Hur et...
Avec Ben Hur, avec Quo Vadis, avec Fabiola et avec Les Derniers Jours de Pompéi.
Voilà, donc vous parlez d'un quatuor sulpicien. Donc sulpicien, c'est pas terrible, terrible dans l'art.
Je ne sais pas, d'abord. Ça se discute, mais ça se discute. Hein. Je pense que... Mais j'ai expliqué d'ailleurs ce que j'entendais par roman sulpicien. Je crois que le roman, je pense que chaque siècle a un genre littéraire qui lui est propre. La tragédie et la comédie au XVIIe, la philosophie au XVIIIe, le roman au XIXe. Le XIXe, c'est le siècle du roman.
Le SMS au XXIe, alors ?
Non, le XXe, c'est le siècle du cinéma. C'est pas... Quant au XXIe, je crois que c'est le siècle des médias, mais bon, on ne peut pas en parler. Je pense que ce qui ne va pas en France, là, vraiment en France, ce qui ne va pas en France, c'est qu'en France, le succès est toujours considéré avec un mauvais œil. Quand un romancier, un écrivain, un romancier a du succès, Il y a quelque chose qui
va pas. Il est mauvais.
Pas forcément, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Gide a dit, le succès ne prouve rien, pas même contre d'ailleurs. Et finalement, on ne pardonne pas à Dumas d'avoir écrit. Si Dumas, regardez la carrière de Dumas, qui est un homme qui m'est cher. Dumas écrit en
40... Qui est cher, je crois, à nos académiciens français, absolument. Dominique Fernandez, bah, qui est
c'est,
le...
C'est le nouveau président de la Société des Amis de Dumas.
Bon, alors Dumas.
Regardez Dumas. Dumas naît en 1802. Il écrit Les Trois Mousquetaires en 1844. Tous ses romans historiques, pratiquement, commencent en 1844. Entre 1802 et 1844, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a été, à partir de 1828, il a été le roi du théâtre avec Hugo. Le roi du théâtre parisien. Imaginez que Dumas soit mort en 1943. Il serait dans toutes les littératures françaises en disant « Avec Victor Hugo, c'est le précurseur du théâtre romantique avec Antony ». Ce serait l'étiquette de Dumas. Maintenant, on a totalement oublié que ça a été le grand auteur romantique du siècle. Il a fait jouer Henri III et sa cour avant Hernani. C'est le grand succès du siècle. Les gens s'évanouissaient en regardant Henri III et sa cour. Vous voyez quelle est l'optique? Pourquoi? Eh bien parce que le théâtre, c'est un genre plus noble que le roman. D'ailleurs, le théâtre est un genre plus noble que le cinéma. Regardez le mal qu'a eu le cinéma à s'imposer. Dans les années 30, Duhamel, bon écrivain, disait le cinéma est un divertissement d'ilotes, c'est-à-dire ces esclaves qui vivaient à Sparte. Comme quoi on peut être grand écrivain et dire des sottises. Bon. De la même façon, dans Mythologie, Barthes, grand écrivain aussi, grand critique, dit énormément de sottises à propos du Jules César de Mankiewicz en disant que ce qui compte pour reconnaître un Romain au cinéma, c'est la mèche de cheveux. C'est une sottise. Il a confondu ça avec la coiffure à la Marlon Brando qui était à la mode en 1953. Bon. Ce sont des sottises. Ce sont des gens qui finalement, comme au fond Todorov qui est spécialiste de littérature fantastique et qui, à mon avis, a très peu lu de livres fantastiques. Ça veut dire que ce sont des gens qui, à partir d'une œuvre, théorisent et ensuite pratiquent un terrorisme intellectuel, alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est pour pouvoir parler de quelque chose, pour pouvoir parler du roman, il faut en avoir lu des centaines. Exactement.
D'ailleurs, Alain Cuny, qui était un grand, un immense acteur de théâtre, disait toujours qu'il avait compris le cinéma, évidemment avec les grands, mais quand il avait rencontré Fellini, et qu'à son avis, Fellini était un aussi grand que tous les textes qu'il dit, que Claudel. Bon, alors oui, je ne sais pas si on peut
grand,
avaliser
plus
ça.
Grand.
Ça, plus grand, je pense que Cuny n'aurait pas accepté.
Non, moi, je me fais, à titre personnel, je dis plus grand.
Bah, lui, c'était l'interprète, il voyait
oui,
ça de l'autre côté.
Sûr.
Mais alors, on a beaucoup parlé d'écriture cinématographique. Et finalement, cette écriture cinématographique a donné lieu à des scénarios. Alors, où commence et où finit la littérature, à votre avis? Est-ce que l'écriture cinématographique est née assez tôt au XXe siècle? Parce que pas au 19e, je ne pense pas.
Quand est-elle née, d'ailleurs?
C'est une question
compliquée. C'est une question compliquée. Le cinéma, on a essayé de le retrouver partout. La bande dessinée aussi. Donc, lorsque un art nouveau naît, on assiste à ce qu'on appelle une tentative de légitimation. Quand est née la science-fiction, on a dit « mais la science-fiction, ça commence avec le récit de Gilgamesh ». La bande dessinée, c'est la tapisserie de Bayeux. C'est bien, ça vous donne des nobles ancêtres. On a fait effectivement la même chose avec le cinéma. Il y a une thèse sur Balzac, le cinéma chez Balzac, si vous voulez. Balzac, auteur de cinéma. Quelqu'un a même démontré brillamment que la colonne Trajane, qui est à Rome, c'est déjà une première façon de faire du cinéma. C'est, bon, travelling, si vous voulez. On peut sourire, mais enfin, c'est comme ça. Donc, ce qu'il y a d'intéressant entre la littérature et le cinéma, c'est que le cinéma, à ses débuts, c'est un art forain. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé si... On n'imagine pas que c'est un art qui était sans avenir pour la plupart des gens, y compris pour ses créateurs. Les forains achetaient des bobines une fois pour toutes. Vous aviez la bobine du film. Et ensuite, on la projetait dans des baraques de foire. C'est comme ça que ça a commencé. Ce n'est qu'à partir de 1907 qu'on a essayé de légitimer le cinéma et qu'on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire appel aux acteurs de la Comédie française. Ça a été une catastrophe, parce qu'ils jouaient dans des films, c'était Mounet Sully, ils jouaient dans des films comme ils jouaient ça. Mais surtout, on va faire appel à des scénaristes qui sont en même temps des écrivains. Alors, vous aviez, par exemple, des gens qui ont écrit, par exemple, Le Retour d'Ulysse. Donc, ça s'appelait le film d'art. Le premier grand film d'art, c'est l'assassinat du duc de Guise. Bon. Ça n'a pas eu un grand succès, mais ce qui est resté, c'est l'idée de lier le cinéma à la littérature. Je vous parlais de Paul Féval tout à l'heure. Paul Féval fils. Tous ces écrivains se sont réunis dans une espèce de comité. C'était des écrivains qui étaient chargés d'écrire pour le cinéma. Et on a même insisté entre les années 1910 et 1920 à ce qu'on a appelé le ciné-roman. Ça voulait dire qu'il y avait un film qui paraissait toutes les semaines et en même temps, dans la presse, paraissait l'écriture de ce film, le feuilleton qui accompagnait ce film. Donc le cinéma et la littérature ont été tout de suite liés, immédiatement liés. On ne peut pas les séparer, si vous voulez. D'ailleurs, le cinéma a commencé par des adaptations d'œuvres littéraires.
Enfin, il a fallu quand même attendre tout récemment pour qu'un scénariste comme Jean-Loup Dabadie soit élu à l'Académie française, c'est-à-dire soit officialisé au fond.
René Clair l'a été.
Oui, René Clair était cinéaste.
Et oui. En même temps, oui.
Et en même temps, bien entendu.
Le premier homme.
Oui,
de...
oui. Oui. Oui, c'est vrai.
Mais ça, pardonnez-moi de le dire, mais je crois que l'élection à l'Académie française, comment dire, est quelque chose qui vient au moment où l'élu qui représente un art, cet art est déjà ancré, si vous voulez. Il est devenu classique. Nous, nous parlons des années 1910, par exemple, où le cinéma vient à peine de naître.
Et est-ce que vous avez le souvenir d'un grand scénario, d'une grande écriture cinématographique, d'un grand dialogue ?
Écoutez, écrit par un écrivain ou par un scénariste ?
Vous un avez scénariste qui se révèle écrivain.
Vous avez des scénaristes de génie. On va chercher des gens comme Dalton Trumbo, par exemple. Vous voyez, Dalton Trumbo, c'est le scénariste de Spartacus. C'est un homme qui a été sur la liste noire de McCarthy. C'est un scénariste de génie, si vous voulez. Mais...
Qui a fait qui a tué... Il avait fait un film sur un soldat qui avait été tué... Qui avait été,
Johnny Got It Gun.
Johnny Got It Gun, voilà.
Un soldat qui revient de la guerre
Johnny
de 14.
Johnny prend son fusil.
Donc, on peut avoir des scénaristes. Mais on a aussi, il y a des tentatives inverses. C'est-à-dire l'idée d'employer des grands écrivains comme scénaristes. Regardez Scott Fitzgerald, bien sûr, mais il y en a d'autres.
Tous les romanciers noirs ou américains.
Romanciers américains ont été employés comme scénaristes.
Parfois,
c'était des échecs. Si vous voulez. Parce que l'écriture de scénario n'est pas forcément la même chose qu'écrire un roman.
C'est un autre genre, oui.
C'est un autre genre. Oui. Donc je pense que le scénario, c'est une œuvre littéraire à part, qui n'a parfois pas grand-chose à voir avec le roman.
Alors, pour finir sur les œuvres littéraires nées des suites, si vous voulez, ou apparentées aux suites, parce que nous étions partis de là, moi, je voudrais vous demander, là, je ne sais absolument pas, je ne connais pas du tout la réponse, si un patchwork, au fond, moi, ce que j'appellerais un patchwork, bien que le mot ne fût pas français, mais je ne vois pas très bien comment trouver, enfin, méli-mélo, comme Harry Potter, qui s'inspire de mille choses, qui est un collage, au fond, d'un tas de choses, peut être encore un genre littéraire romanesque.
Bon, c'est une question compliquée parce que Harry Potter, je l'appellerais pas ça un patchwork. Je dirais qu'Harry Potter est dans l'air du temps, si vous voulez, comme le Da Vinci Code. Ça fait partie de ces mélanges, comment dire, on est dans une époque où tout est brouillé. Harry Potter, c'est Tolkien, si vous voulez. Il est bien évident que, donc c'est la recréation d'une certaine néo-mythologie. Ouais. Inspiré d'ailleurs par la mythologie celtique, puisque gréco-romaine. Bon, ça, c'est une chose. Avec, du côté de Tolkien, qui était quand même...
Tolkien fait partie de la littérature,
de linguistique.
Quand même.
Ah oui, de la grande littérature, oui, bien entendu. Oui. Je crois qu'Harry Potter est dans l'air du temps. Je crois qu'Harry Potter, la romancière qu'il a écrite, ne manque pas de talent, bien entendu. Elle avait des loisirs, puisqu'elle a écrit ça quand elle était au chômage. Et donc...
Oh.
Oui. Peut-être que s'il n'avait pas eu bien heureux chômage, d'ailleurs, qu'il y a permis.
Et vous dites que c'est Suétone qui est un gossip de l'Antiquité, à cancanier.
Je ne cancane pas. C'est un fait littéraire avéré. Comme elle ne savait pas quoi faire, elle était au chômage, elle a écrit Harry Potter. Et tant mieux.
Elle aurait pu le bien, oui. Alors, donc,
elle aurait pu
ça vous évoque, je crois. Oui.
Moi, je crois que les choses comme Harry Potter, et le Da Vinci Code. Et il y en a d'autres, parce que Harry Potter pour les adolescents, si vous voulez, et Da Vinci Code pour les moins adolescents ou les plus, je ne sais pas comment il faut dire. Je crois que ce sont des succès artificiels qui sont médiatisés. Quand on vous montre des affiches, des photos ou des images de gens qui attendent à minuit pour lire le dernier Harry Potter, moi, je pense aux images qu'on nous montre à la télévision ou des gens qui attendent toute la nuit les soldes et qui se précipitent sous le rideau pour aller acheter un truc. Si la littérature a l'estomac, et pour reprendre Julien Benda, si la littérature c'est ça, moi c'est pas mon truc, si vous voulez.
Mais vous, ça vous évoquait quand même une pratique de l'Antiquité qui s'appelle les centons.
Oui, le centon, moi, ce que j'ai appris. Le centon.
Oui, racontez ce que c'est d'abord.
Et ne pas confondre avec le centon sous la pluie, bien sûr, qui était un film célèbre. Non, ce qu'on appelle le centon, c'était une espèce d'essoufflement de l'inspiration littéraire dans l'Antiquité, où on écrivait, mais en même temps un jeu linguistique très intéressant, où on écrivait une œuvre entière qui n'était composée que de vers, de Virgile, de d'Ovide, d'Horace, de Juvenal.
C'est un cadavre exquis, érudit.
Voilà, c'est un cadavre exquis, érudit. Et ça, je trouve que c'est assez excitant intellectuellement. Ce n'est pas dans l'air du temps, si vous voulez. C'est une forme littéraire nouvelle à partir de formes littéraires anciennes. Ce n'est pas du tout ce qui s'est fait avec Harry Potter. Et je n'ai rien contre Harry Potter. Hein. Et Da Vinci Code, je n'ai rien non plus contre Da Vinci Code. Je lis ça tranquillement. Je trouve que ce n'est pas très intéressant. Ça part bien, puis après, ça s'en va de tous les côtés. Mais il en est peut-être ainsi. Ce qui me paraît intéressant, je préfère parler de Da Vinci plutôt qu'Harry Potter, qui est de la littérature de jeunesse pour laquelle je n'ai pas une grande estime. Je parle de la littérature de jeunesse.
Oui, parce que ça aussi, c'est nouveau. Non, mais disons-le aussi, c'est nouveau. Je veux dire que dans ma jeunesse, à moi, il y avait peu de littérature de jeunesse. On lisait les livres des grands, quoi.
Abrégé.
Oui, oui.
C'est-à-dire que dans votre jeunesse et dans la mienne...
Oui. À part les malheurs de Sophie, enfin la Bibliothèque Rose, quand même.
Oui,
ça.
Il s'est passé un phénomène quand même qui est extraordinaire, sur lequel on ne réfléchit peut-être pas assez. On s'est retrouvé avec un écrivain pour adultes, Alexandre Dumas, qui est passé pour la jeunesse dans des formes abrégées, et un écrivain qui est censé écrire pour les jeunes, Jules Verne, qui est devenu maintenant un écrivain pour adultes. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'inversion des valeurs. Bon, mais vous avez raison, à cette époque, la littérature de jeunesse, elle était embryonnaire, et on a bien montré maintenant que la comtesse de Ségur, elle écrit tout, mais pas de la littérature de jeunesse, et plutôt, elle se rapprocherait plutôt de Sade, d'ailleurs, qu'au fond, Jules Verne. Bon, passons, on pourrait discuter là-dessus aussi longuement. Ce n'est pas Zénaïde Florio, si vous voulez, la comtesse de Ségur. Mais ce qui me paraît intéressant pour Da Vinci, Code, c'est qu'à partir de ce livre, il y a eu, vous avez bien vu, il y a eu dans cette église de Saint-Sulpice,
qui vous est cher,
vous avez des parcours fléchés. C'est-à-dire qu'on est, au fond, ça me fait penser à cette espèce de théorie du complot, là, maintenant, dont on nous rabat les oreilles. C'est-à-dire que finalement, l'idée, c'est que par la littérature ou par le cinéma, on nous cache des choses et qu'on va découvrir des vérités cachées. Alors, en ce qui concerne la littérature, c'est effectivement Jésus, a-t-il eu des enfants? Était-il marié? Bon, et Kazantzaki, déjà, dans La Dernière Tentation, a déjà écrit des choses là-dessus.
Et mieux,
bien entendu. Et Scorsese, au cinéma, a fait une très belle adaptation et magnifique de La Dernière Tentation. Mais c'était fantasmatique. Dans le roman comme dans le film, Jésus sur la croix rêvait, imaginait qu'il aurait pu avoir une autre vie. Tandis que là, on est en train de nous dire, c'est comme le trésor des Templiers, si vous voulez, c'est comme les cathares. Ce sont des divagations fumeuses qui ne font de mal à personne, qui ne feraient de mal à personne si, finalement, elles n'étaient pas accompagnées de croyances absolument irrationnelles. Moi, j'adore la science-fiction. J'ai fait beaucoup de conférences sur la science-fiction, mais j'ai fait des conférences devant des gens qui pensaient que, par exemple, qui faisaient partie de la société des grands galactiques. Vous savez pas ce que c'est que les grands galactiques? C'est des fous qui sont réfugiés près de Gênes et qui pensent que la fin du monde va arriver, qu'il faut se mettre sur une montagne. Alors, entre les gens qui disent la science-fiction, c'est une littérature, j'en suis, et les gens qui disent la science-fiction, c'est très important parce que les Martiens vont arriver et les extraterrestres sont parmi nous, il y a quand même une différence énorme.
Oui, alors ça c'est le nivellement du virtuel. Mais ça c'est un autre sujet, disons.
C'est un autre sujet, oui, mais à partir de la littérature.
À partir de là, c'est le nivellement du virtuel.
Absolument.
Avec Internet encore.
Et oui, et ça c'est dramatique.
Oui.
Ça veut dire que finalement c'est un patchwork des valeurs où on n'est plus capable de distinguer qu'est-ce qui est classique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas, dans la mesure où finalement rien n'est bon et tout est bon.
Non, puisque le temps est aboli, justement. Voilà. Oui.
Le temps est aboli.
Oui.
On est dans une
Alors
période de longtemps.
La littérature, comme vous le dites, ce sont des personnages qui vivent, qui souffrent,
dans
qui vieillissent
temps.
Et qui
dans
naissent. Voilà. Et qui meurent.
Enfin. Et oui, et qui meurent. Finalement.
Voilà. Et nous aussi, eh bien voilà, nous avons pris le temps, pendant toute une émission, de parler littérature et bien d'autres choses. Mais la littérature, c'est aussi bien d'autres choses. Avec Claude Aziza, qui fait tant de choses qu'il faut remonter au début de l'émission pour le savoir. Et qui publie des livres sur Néron, sur la mythologie. Alors ça, c'est donc sur les mythes, sur l'univers mythique, n'est-ce pas? Vous publiez aussi un livre...
Ce que je viens de finir, c'est un guide de l'Antiquité imaginaire.
Voilà, un guide de l'Antiquité imaginaire pour vous faire rêver bientôt et toujours. À bientôt.
Merci, au revoir.